RCF. Fabrice Midal, je suis très heureux de vous rencontrer dans votre bureau au 43e étage d'une des tours de la Défense, mais un bureau qui n'a rien à voir avec ces univers froids, très design, de bureaux de holding international. Non, ce bureau est à votre image, très coloré, rempli de livres, des livres de philosophie bien sûr, mais aussi des livres sur les différentes religions, des livres d'art. Il y a également des objets d'art, des statuettes grecques, bouddhistes, une miniature indienne. On perçoit cet éclectisme qui caractérise le philosophe que vous êtes. Alors au début de votre livre, « Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être » que vous publiez chez Flammarion, au début de ce livre, vous faites appel à la sagesse des philosophes grecs et vous citez notamment cette célèbre phrase du fronton du temple de Delphes « Connais-toi toi-même ». Alors pour commencer, je ne vais pas vous poser cette question que vous pose trop souvent, dites-vous, votre père, « Es-tu heureux ?» Je vais vous poser une question, à mon avis tout aussi difficile ou exigeante. Aujourd'hui, je vous rencontre ici, dans votre bureau, et je vous demande, Fabrice Midal, qui êtes-vous? Vous me répondez quoi?
C'est une question auquel on ne peut pas répondre, qui l'on est. Parce qu'au fond, toutes les déterminations qu'on pourrait avoir, je suis ceci, je suis cela, ne disent rien de l'énigme de notre propre existence. Et au fond, la question, la fameuse phrase « connais-toi toi-même » n'a pas du tout le sens qu'on imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une sorte de connaissance psychologique de ces états d'âme. C'était pas du tout ça qui était au cœur de ce qui était marqué au fronton de Delphes, qui était la parole d'Apollon que Socrate reprend. Mais « connais qu'est-ce qui te meut, reconnais quelle est la limite de ton humanité ». Ça a vraiment beaucoup à voir avec... être en phase avec sa propre humanité. Connais-toi toi-même, ne prétends pas être un dieu et ne te prends pas non plus pour un animal, mais assume ton humanité.
Je vous ai rencontré, Fabrice Midal, il y a une dizaine d'années pour faire cette émission Visage et là, revenir sur votre histoire, votre parcours. Si j'avais posé cette question à l'homme il y a 10 ans, il m'aurait répondu de la même manière ou ouais. Vous avez vraiment changé?
Je crois qu'on ne change pas, qu'on est tous animés par une question. Donc ça, qui je suis, au fond, c'est être animé par une question. Et ça, je crois que la question que nous avons, c'est la même. On l'a depuis toujours.
Elle nous habite tous.
Moi, je pense, comme on dit souvent qu'un écrivain écrit toujours le même livre, je pense qu'au fond de soi, on est tous animés d'une question. Malheureusement, trop souvent, les gens ne font pas le travail pour la discerner, cette question. Et qu'au fond, peut-être qu'une des tâches de la vie, c'est d'essayer d'approcher cette question, après évidemment la manière de le formuler change au cours de la vie, mais ça reste toujours une même interrogation. Et évidemment, une manière de formuler cette question, c'est exactement la question que vous avez posée. Qui suis-je? En restant toujours dans l'énigme de l'étrangeté et d'être.
Une énigme. On est toujours autre ou on est toujours plus que ce que l'on croit être?
Oui, on est toujours autre. C'est-à-dire que, au fond... C'est vrai qu'on ne se connaît jamais, c'est impossible. Parce que je peux connaître le contenu de mon tiroir, je peux l'ouvrir et dire ce qu'il y a dedans. Mais un être humain, personne ne sait jamais ce qu'il est. C'est pour ça que pour les Grecs, par exemple, on ne pouvait savoir si le visage d'une vie humaine qu'au moment de la mort, quand elle était achevée, là on voyait quel était le dessin d'une existence. Mais en moment de crise, en moment de guerre, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Des gens qu'on pensait formidables se révèlent lâches, d'autres qu'on pensait pas courageux se révèlent héroïques. Je prends un exemple un peu extrême, mais qui montre que c'est un piège aujourd'hui de vouloir trop définir. On définit les gens par leur fonction, par leur âge, etc. Il y a plein de problèmes aujourd'hui. Et peut-être que ce qui est important, c'est de rester ouvert dans l'énigme. Et on voit bien quand on aime quelqu'un que cette personne, même si les années passent, on ne la connaît jamais. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'au fond, on comprend quelque chose, mais elle nous émerveille parce qu'on n'en a jamais fait le tour. Et de notre propre vie non plus, on n'en a jamais fait le tour. Et c'est ce qui fait que la vie, à mon avis, est passionnante. C'est justement qu'il y a quelque chose qui est toujours neuf. Et c'est ça. Et connais-toi toi-même. Donc c'est pas en finir avec l'énigme de la vie, c'est plutôt essayer de l'assumer.
Alors si je vous pose cette question, Fabrice Midal, à un niveau moins philosophique ou existentielle. Qui êtes-vous, Fabrice Midal ? Parce qu'on se demande si vous êtes un philosophe, un psychologue, un maître en méditation.
Alors,
vous êtes qui ?
Alors, je ne suis pas psychologue. J'ai pas du tout. Je suis vraiment d'abord philosophe, c'est-à-dire
de formation, philosophe.
De formation
et de goût.
De goût. La philosophie a été vraiment une grande rencontre de ma vie. Alors évidemment, il y a plein de formes de philosophie. Moi, ce qui m'a plu, ça a été la philosophie comme entrée dans le questionnement infini. Enfin, on peut dire Socrate inaugure la philosophie occidentale en étant un fou de questions.
Ça vous plaît ? Ça vous correspond ?
Oui, ça, cette manière de ne pas être installé quelque part et d'être en question, ça, je trouve que ça... Puis, après, dans la philosophie, il y a aussi tout la philosophie moderne, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, qui m'ont beaucoup marqué et que je lis intensément parce que je trouve qu'ils permettent de discerner le sens profond de notre monde, de comprendre qu'est-ce qui se ferme dans notre monde. Et très rapidement, voilà comment Nietzsche montre... comment le découragement est tellement marquant de notre temps. Et il analyse bien, très longtemps avant aujourd'hui, mais qu'au fond, ce qui va nous marquer, c'est la dépression, la déprime, le manque de courage, le manque d'allant, à cause d'un certain culte du bien-être qui finit par émousser le sens profond de la vie.
Donc ça, c'est le volet philosophique, je dirais.
Voilà, donc les deux volets philosophiques. Donc en philosophie, c'est à la fois le monde grec et puis la question moderne. L'autre volet, c'est la spiritualité. Donc j'ai été extrêmement marqué par le bouddhisme et particulièrement tibétain. Ayant eu la chance, il y a une trentaine d'années, d'étudier avec des maîtres tibétains qui venaient juste d'échapper au Tibet et qui avaient eu une formation extraordinaire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. J'ai été très choqué, chamboulé il y a une quinzaine d'années de découvrir que, hormis les maîtres de cette génération, beaucoup d'autres maîtres étaient... il y avait des dérives financières et sexuelles que je pense avoir été un des premiers à en parler et à dire qu'il y avait un problème.
Et qu'on a clairement dénoncé
ces dernières années. Donc ça a été pour moi un grand soulagement que ce soit dénoncé, parce que pendant 10 ans, j'ai vécu dans une situation assez douloureuse, puisque pour tout le monde, les gens pensaient que j'étais une sorte de... que j'avais abandonné quelque chose, alors que pour moi, c'était être fidèle à ce que j'avais reçu. Donc ça, la dimension spirituelle. Alors, bien sûr...
Alors que vous êtes d'origine juive, de tradition juive.
Je suis tradition juive. La question du judaïsme est vraiment centrale dans ma vie. J'ai écrit un livre, du reste, Auschwitz, sous l'impossible regard, où je travaille cette question. Et quand je parlais de spiritualité, j'ai aussi un lien très fort et très profond avec le christianisme. J'en ai souvent parlé. J'ai même eu le bonheur... de faire sur votre radio une série d'émissions sur l'oraison. Donc c'est une des choses dont je suis vraiment content d'avoir réussi à faire, en montrant toutes les ressources méditatives au sein du christianisme. Et je lis beaucoup les grands auteurs de la mystique chrétienne. Donc on peut dire qu'il y a ce versant-là.
Et puis la méditation. Vous êtes bien connu comme enseignant.
Oui, disons un peu, on peut dire que j'étais aussi, à cause de ce que j'ai raconté... J'ai senti, il y a une vingtaine d'années, la nécessité de transmettre la méditation hors d'un cadre religieux, en tant que je trouvais que le cadre religieux, comme il était imposé, était extrêmement archaïque. Et ça, c'était bien avant que la méditation devienne à la mode, et ça a été un de mes engagements. Et après, si on veut définir aussi, je pense que ce qui me définit beaucoup, c'est un rapport à l'art. J'ai beaucoup écrit sur l'art, et c'est vraiment... un enjeu profond de questionnement. Et puis, sur le versant, je ne suis pas psychologue, mais j'ai été marqué par la rencontre avec de grands thérapeutes, dont François Roustan, qui est la grande figure au XXe siècle sur l'hypnose, qui avait été jésuite. Et je pense que ça a été aussi, disons, un des fils de construction de ma propre pensée.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Fabrice Midal, en vous lisant, et notamment depuis que vous avez écrit ce livre qui a eu un énorme succès, Foutez-vous la paix, on a quelque chose qui semble paradoxal chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes très critique, vous dénoncez les injonctions que l'on a aujourd'hui à être heureux, les injonctions au bonheur de certains coachs. Vous êtes assez critique vis-à-vis du développement personnel tel qu'il est présenté dans notre société. Et en même temps, vous écrivez sur la question du bonheur. Vous venez de sortir un livre qui, quelque part, donne des conseils pour être heureux. Il n'y a pas quelque chose de paradoxal chez vous ?
Je pense que si vous êtes cuisinier, vous allez dire qu'il y a des chefs que vous trouvez que c'est pas ça que vous voulez défendre comme cuisine, que vous avez une certaine idée de ce que c'est la cuisine. Il y en a plein. Et puis dans n'importe quel domaine, il y a forcément des engagements particuliers. Donc ce qui me semble, disons, crucial dans ce que j'essaye de dire, c'est beaucoup de discours, disons, de coaching et de développement personnel sont pas assez habités. Et je trouve que ça n'aide pas vraiment parce qu'il n'y a pas un rapport assez honnête avec l'expérience de la souffrance. Et donc, ça me semble nous égarer.
Qu'importe, avec l'expérience de la souffrance.
Oui, je pense qu'on ne peut parler du bonheur sans faire l'expérience réelle de la souffrance, qui est de l'épreuve, de la difficulté.
Mais qui est inhérente à la condition humaine.
Qui est inhérente à la condition humaine. Mais je pense que si beaucoup de gens parlent, disons, du bonheur, de comment faire dans la vie, en faisant comme si cette expérience-là n'était pas là, ou elle était une anomalie. Or, elle est profondément... on n'est pas en faute de souffrir. Tout être humain rencontre la souffrance. Et du reste, puisqu'on parle de mon parcours, je n'ai écrit mes livres, comme Foutez-vous la paix, qu'après avoir écrit mon livre sur Auschwitz. Et je savais très consciemment que je n'aurais la force de pouvoir écrire Foutez-vous la paix, ou mon livre sur le bonheur que j'écris, voilà, maintenant que j'ai un certain âge, que parce que j'ai fait cette épreuve à la fois personnelle et sociale.
On reviendra certainement là-dessus, parce que c'est très important. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par cette sorte d'injonction ?
Foutez-vous la paix.
Foutez-vous la paix.
Alors, foutez-vous la paix, c'est l'idée que le problème de notre société, si on essaie d'être philosophe et regarder le problème de notre société, c'est qu'on se met tous trop de pression, on se sent tous illégitimes, on a tous le sentiment de ne pas en faire assez et que malheureusement, la plupart des discours qu'on entend partout nous disent le contraire. On nous explique à longueur de journée que tout le monde est trop égocentrique. Or, moi, je pense que les gens ne sont pas du tout... Enfin, s'ils sont égocentriques, c'est justement parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes et pas parce qu'ils sont trop en rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens souffrent parce qu'ils se mettent trop de pression. Et le discours qu'on leur tient, c'est de votre faute parce que vous n'en faites pas assez. Et en plus, on leur dit qu'ils sont trop égocentriques. Donc je disais, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. En fait, par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out, on lui dit en gros, c'est parce qu'il n'a pas assez bien géré son stress. C'est ça que je dénonce. Non, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui prend trop au sérieux son travail. Quelqu'un qui n'a rien à foutre de son boulot, des usagers, de ses collègues, ne va pas faire un burn-out. Donc les gens font un burn-out parce qu'ils veulent trop bien faire. Mais on leur dit qu'ils n'en font pas assez. Donc c'est vraiment la double peine. Donc mon livre était, non, là on arrête. Foutez-vous la paix, c'est-à-dire arrêtez cette pression qui vous ronge, qui vous détruit.
Et cette pression est mise par la société moderne,
oui.
Ou est-ce qu'elle est mise par les individus?
Elle est mise par la société moderne, parce que pour plein de raisons. D'abord, depuis l'enfance, on est de plus en plus soumis à des normes. Et moi, quand j'étais encore, moi, de mon temps, c'était déjà comme ça, mais c'était moins pire. On me disait, moi, j'avais pas la bosse des maths, on m'aurait dit, parce que j'étais nul en maths. Hein. Maintenant, on me dirait que je suis dyscalculique et que j'ai un problème. Et tout le monde est maintenant
dit quelque chose.
Oui. Nous sommes tous. J'ai des amis qui, je raconte ça dans le livre, avaient emmené leur petite fille de 3 ans l'été à faire un stage de trampoline, 3 ou 4 ans, et une heure par jour, voilà, à l'après-midi. Et à la fin de la semaine, la monitrice avait fait un bulletin d'évaluation en disant coordination des membres, bien, rapport avec les autres enfants, peut mieux faire. Et cette notion qu'on doit évaluer tout de suite, on est tout de suite évalué. Et donc on est pris, est-ce qu'on est normal ou pas ? Tout le monde est pris, des 3 ans il faut savoir faire ça, 4 ans il faut savoir faire ça, 5 ans il faut savoir faire ça, est-ce qu'on est dans la norme ?
Et ça vous pensez que c'est un phénomène nouveau ?
Oui, je pense.
Il n'y avait pas cette évaluation quand un jeune partait en apprentissage quelque part ?
Je pense que chaque époque a une manière différente de poser des difficultés à l'être humain. De chaque époque, et au fond, chaque culture, sans doute qu'il n'y a pas la même culture, problème dans d'autres cultures, mais dans la nôtre, l'obsession de la performance, qui est vraiment liée à un état extrême du capitalisme, me semble tout à fait propre à notre temps. Par exemple, mes grands-parents travaillaient très très dur, beaucoup plus dur au fond d'un certain point de vue que nous, puisqu'ils travaillaient au moins 12 heures par jour, mais ce n'était pas la même forme de pression. Ils travaillaient chez eux, mon grand-père était tailleur, c'était une vie dure, mais il n'y avait pas... Il y avait un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, un autre rapport avec soi-même. Donc je pense que cette idée qu'il faut se gérer soi-même, vous voyez, par exemple, mes grands-parents n'avaient pas eu d'où l'idée, il faut gérer son stress, se gérer soi-même, comme on gère un compte en banque. Du reste, le langage ici est très parlant. Il faut se gérer, il faut potentialiser son capital santé, il faut potentialiser son capital émotion, il faut tirer le meilleur de soi-même. Et donc, on est toujours en faute par rapport à cette déshumanisation radicale. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la déshumanisation radicale de ce discours. Et j'ai l'impression, en effet, qu'un nombre de discours social ou psychologique ne fait qu'insister, ne fait que renforcer ce malaise. Donc, c'est pour ça que j'avais dit « foutez-vous la paix », qui, au sens le plus simple du terme, c'est « arrêtez-vous mettre la pression », et qui, en un sens plus profond, a beaucoup à voir philosophiquement avec la question de laisser être, d'apprendre à laisser être. Et au niveau spirituel, évidemment, foutez-vous la paix, rejoint une grande compréhension spirituelle qui est une forme d'abandonnement, d'ouverture profonde. Et donc,
De confiance.
Et donc, il y avait plusieurs niveaux, un niveau très simple, et puis un niveau plus profond, et puis un niveau plus ultime qu'il y a dans le livre.
Mais Fabrice Midal, dans ce « Foutez-vous la paix », est-ce qu'il n'y avait pas également un « Foutez-nous la paix, vous tous, coach, donneur de leçons, tout formateur qui nous disent sans arrêt « Soyez zen, soyez comme ceci, soyez comme cela ».
Oui, enfin, oui et non, parce que je n'écris pas un livre contre quoi que ce soit, mais oui, dans le sens que j'écris un livre « Foutez-vous la paix » parce que c'est un mouvement qu'on a à faire. Mais vous avez raison, je crois que soyez zen, par exemple, je dis souvent, c'est la meilleure manière de s'angoisser. Parce que si on est angoissé, si je me dis zen, si je dis qu'il faut que je sois zen, je me dis que je suis en faute de sentir ce que je sens.
Je ne suis pas zen, donc ça me stresse de ne pas être zen.
Alors qu'en réalité, si je suis angoissé, en colère, nerveux, il faut d'abord que j'apprenne à écouter ce que je sens pour pouvoir le transcender, le dépasser. Et que ce n'est pas en voulant juste le gérer, le contrôler, que je vais réussir... à surmonter quoi que ce soit. Comme le disait Marcel Proust, une souffrance ne peut être dépassée qu'en l'éprouvant pleinement. Et je crois que c'est tout à fait fondamental. Et ça rejoint ce que je disais, qu'on ne peut trouver le bonheur qu'en acceptant de faire la rencontre avec sa propre souffrance.
Fabrice Midal, comment relâcher la pression ? Parce qu'on a des pressions qui viennent de l'extérieur, du monde de la société. On a des pressions familiales. Le nombre de parents qui sont stressés aujourd'hui parce que la vie est dure. Ils souhaitent que leurs enfants fassent de belles études. Ils mettent pression sur leurs enfants. Et puis, il y a les gens qui se mettent eux-mêmes beaucoup de pression intérieurement.
On se met beaucoup de pression parce qu'on veut correspondre à des normes qui ne sont pas les nôtres. Et donc l'important, c'est d'arriver à faire la distinction entre ce qu'on nous impose et ce que l'on sent vraiment soi-même. Alors, Foutez-vous la paix, j'avais publié ce livre il y a 6 ans, puis il y a un an, j'ai publié la méthode Foutez-vous la paix. Alors là, avec plein d'exercices pratiques pour montrer, parce que voilà, très concrètement, j'arrive pas à dormir, par exemple, pour que ce soit concret. Donc dans le livre, la méthode Foutez-vous la paix, je prends plein d'exemples. Je vis sous pression,
avec
je n'aime pas.
Des petits exercices à faire.
Voilà. Je ne sais pas dire non, je me sens coupable, je suis hypersensible, j'ai honte. Comment je peux dépasser ça ? Prenons un exemple, parce qu'on va pas prendre, on n'aura pas le temps de faire tout le livre, mais prenons un exemple. Je n'arrive pas à dormir. Plus je me dis il faut que je dorme, moins je dors. Tout le monde a déjà fait ça. Il faut que je dorme. On se met juste la pression, ça ne marche pas. Mais si on ne fait rien, on ne dort pas non plus. Donc se foutre la paix, c'est arrêter de croire que c'est par la volonté seule que je réussis à faire les choses, une volonté abstraite, parce que je vais vouloir, je vais réussir, parce que je veux ne plus être angoissé, que je ne suis plus angoissé. Donc,
oui, ce fameux « je veux, donc je peux », ça, vous ne l'aimez pas.
Je pense juste que c'est une erreur, que ça n'est pas vrai. Il y a eu la volonté, pas avoir un...
« donc je peux ».
Ça ne marche pas comme ça. La volonté, ça se construit, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, je veux dormir, ça ne marche pas. Je ne fais rien, je ne dors pas. Donc, comment je fais? Ben, par exemple, en réalité, quand je n'arrive pas à dormir, c'est que mon corps veut dormir, mais que mon esprit est tellement occupé ou stressé, ou je ne laisse pas mon corps dormir. Donc, en me foutant la paix, je ne fais pas rien, je me remets en connexion avec mon corps qui, lui, a envie de dormir, en laissant tomber... la volonté qui ne va que renforcer mon esprit. Alors, par exemple, je donne plein d'exercices très simples à faire. Un exercice que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les 5 doudous. Vous voyez, c'est vraiment amusant. C'est de prendre 5 choses qu'on aime et de les visualiser devant soi. Moi, en ce moment, là, je prends 5 fleurs. Alors, voilà, je prends du mimosa, des roses. Et donc, je vois les fleurs. Mon esprit est occupé, mais pas quelque chose en ressassant et tout ça. Et donc, doucement, ça envoie le message que je m'endors. C'est une manière que j'ai trouvé de m'endormir. Après, j'en donne plein d'autres. Mais l'idée, c'est chaque fois... en me foutant la paix, parce qu'au début, les gens ont vu le soulagement, mais en le faisant, c'est vraiment une autre approche, parce que c'est chaque fois découvrir le point où on se met la pression. Et ce qui est tout à fait subtil dans l'approche « foutez-vous la paix », que j'espère que la méthode permet de voir, c'est que nous avons tous notre manière de ne pas nous foutre la paix. Alors moi, j'ai tendance à vouloir être trop sérieux. Je suis philosophe, donc il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à écrire un livre comme « Foutez-vous la paix ». Au début, j'étais voir tout le monde, je disais « Est-ce que tu crois que je peux écrire un livre « Foutez-vous la paix » ?» C'est vraiment au cœur de ce que j'essaye d'enseigner, mais quand même, c'est, ça n'est pas sérieux. Voilà, pour moi, me foutre la paix, c'est vouloir tellement bien faire que ça finit par m'empêcher d'être juste. Bah, quand j'ai commencé, je faisais des conférences quand j'étais jeune, je les écrivais en entier, je lisais... J'avais l'impression d'être très sérieux, ça faisait chier tout le monde, tout le monde s'ennuyait, moi le premier, mais j'avais l'impression de faire quelque chose de bien. J'étais à Tokyo, j'ai fait des conférences à Tokyo. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Personne ne comprenait, j'étais tellement pointu. Mais, et donc, voilà.
Ça faisait sérieux.
Pour moi, me foutre la paix, ça a été... Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera complètement l'inverse.
Et maintenant, vous parlez plus librement.
Voilà.
Et vous dites « je ». Ça vous incite.
Voilà.
Vous parlez beaucoup à partir de vos expériences.
Voilà, ouais. Une des choses qui m'a...
plus simple.
Donc, c'est ça qui disons, pour chacun. Et donc, dans la méthode, j'aide les gens au fur et à mesure des exercices à dire « ah, voilà ». Par exemple... je n'ose pas dire non. Je montre qu'on n'ose pas dire non, non pas parce que je suis nul, j'ai pas de force, mais parce que je veux être gentil. Donc ça, c'est très aidant de comprendre. Je n'ose pas dire non parce que je veux être gentil. En fait, je ne suis pas du tout gentil en ne disant pas non parce que je rends les choses plus compliquées et que dire la vérité, c'est peut-être pas toujours agréable, mais au fond, ça crée une relation plus saine. Mais c'est très aidant de comprendre, ah, c'est pas parce que je suis faible que je n'ose pas dire non, c'est parce que je veux être gentil et que ça part vraiment d'une noble aspiration.
Visage RCF.
Fabrice Minal, j'aimerais que l'on parle maintenant de ce nouveau livre que vous venez de publier, Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, que vous publiez chez Flammarion. Alors j'aimerais d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'être heureux pour vous.
Eh bien, je pense justement que tout mon livre, c'est que ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Je dirais, au lieu de se demander qu'est-ce que c'est qu'être heureux, si on se demandait plus simplement qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche d'être heureux. Parce qu'on est tout de suite pris dans des grandes définitions sur le bonheur. Et au fond, ce n'est pas ça du tout qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement qui se passe quand on se pose la question.
C'est pour ça que vous dites que le bonheur est comme un chemin et non comme un but.
Ah oui, moi je pense que c'est la clé, enfin une des clés qu'a ouvert. Parce que j'avais longtemps que je réfléchissais sur la question du bonheur, mais j'étais très gêné parce que je voyais tout de suite le bonheur. Soit une discussion infinie philosophique, est-ce que le bonheur c'est ceci, est-ce que le bonheur c'est cela, qui au fond, moi, ne m'intéressait pas du tout.
Très savoir abstrait. Si le bonheur existe vraiment.
Ouais, est-ce que le bonheur existe vraiment? Est-ce que le bonheur c'est le détachement? Est-ce que le bonheur c'est ceci? Alors non, vraiment, ça m'intéresse. Vraiment, pour moi, ça me semblait complètement un peu hors sol. Ça fait un catalogue. Alors il y a un tel, il y a Descartes qui pense ça, il y a Spinoza qui pense ça, il y a Épicure qui pense ça. Donc c'était pas cette voie qui m'intéressait, mais plutôt pourquoi quand je me demande qu'est-ce qui me rend heureux, par exemple. Voilà, je fais un entretien avec vous. Est-ce que ça me rend heureux ou pas? Ben, si je vois que ça me rend pas heureux, il faut mieux que je le fasse peut-être pas. Peut-être qu'en se demandant est-ce que ça me rend heureux, je vois mieux ce qui a du sens pour moi. Et donc la question du bonheur devient la question de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi, ça me permet de prendre des décisions justes. Et la question qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux là? Alors là, c'est vraiment très fort. On peut conseiller aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent de vous demander là, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux là aujourd'hui? Ah, j'ai trop de pression, je suis inquiet pour ma fille, ou ceci. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui me permettre de l'être un peu plus? Et en général, on arrive très bien. Ah oui.
Dans les mêmes conditions.
Oui, c'est-à-dire dans les mêmes conditions.
Avec les soucis que j'ai pour ma fille.
Par exemple, j'ai des soucis pour ma fille qui n'est pas très bien. Voilà, je ne suis pas très heureux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider davantage? Ben, relativiser, sentir que je fais les choses au mieux, ou demander conseil à quelqu'un. Et donc, tout de suite, on voit qu'on commence déjà à se libérer. Et donc, je trouvais presque que c'est des deux questions un peu magiques, ces deux questions qui aident concrètement. J'avais envie de faire un livre assez concret pour aider chacun à se dire, mais vraiment très simplement, voilà comment faire pour être... C'est un peu le paradoxe, parce qu'on vous demande qui je suis. Alors voilà, j'ai fait de la philosophie, tout ça. Mais j'essaye aujourd'hui de faire des livres qui, grâce à cet arrière-plan, soient vraiment accessibles à chacun.
Et dans la vie. Et dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai bien aimé cette phrase dans votre livre. Le bonheur n'est pas un état, il est un art de vivre.
Oui, parce que c'est ça qui me semble crucial. C'est qu'on n'est jamais heureux une fois pour toutes. C'est ce qui rejoint l'énigme d'être dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est on n'est jamais heureux. Si on veut être heureux comme un état, c'est hyper angoissant. Parce qu'on se demande, est-ce que je suis assez? Est-ce que j'ai assez de ceci? On est paniqué dès qu'on parle au bonheur comme un état. C'est ça que vous avez rappelé au début du jeudi. La question du bonheur m'a beaucoup gêné pendant longtemps parce que chaque fois que je voyais mon père, il me demande « Es-tu heureux ?» Et moi, je me disais « Mais comment je peux être heureux ? J'ai des soucis, j'ai des angoisses, j'ai mes imperfections, je suis hypersensible. Je ne suis pas dans cet état que j'imaginais d'être heureux. Donc, je n'ai vraiment pas quoi lui répondre. » Et puis, à un moment, j'ai compris « Non, non, être heureux, ce n'est pas être dans un état de perfection. » Mais être heureux, c'est l'attitude, c'est une attitude, c'est être en chemin, sentir qu'on essaye d'être honnête avec soi-même, qu'on est en phase avec ce qui se passe, qu'on essaye d'affronter nos difficultés. C'est Socrate, mais c'est aussi le message du Christ ou du Bouddha, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire face à la vie, au lieu de vouloir se protéger de la vie dans une sorte de bulle, d'entrer dans le mouvement même de la vie, de consentir au mouvement de la vie. Apprendre à laisser la vie nous dépasser, agir en nous et sentir que, là aussi, ce n'est pas nous qui la contrôlons. C'est ça, foutez-vous la paix, c'est quand même se confier quand même à quelque chose de plus grand que le petit soi-même.
Et en même temps, Fabrice Midal, vous dites qu'il faut apprendre à dire « je ». Vous-même démarrez
c'est même le début du livre.
C'est le début du livre. « Je est la pierre angulaire de l'édifice du bonheur », écrivez-vous.
Oui.
Alors attendez, là aussi, qu'est-ce que vous voulez dire par ce « je » ?
Qu'est-ce qui vous surprend ?
Que dans notre tradition judéo-chrétienne, et peut-être surtout chrétienne, le « je » est haïssable, quelque part.
Oui, c'est pas du tout...
Il est égocentrique, et il faut
alors ça, c'est
d'abord,
ce « je ». D'abord, ça, c'est à mon avis pas du tout le sens du christianisme. Même chez Pascal, le « moi » est haïssable, on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais le « moi » est haïssable ne veut pas du tout dire ça. Si on lit le texte en entier, c'est trop vraiment, c'est dommage de pas avoir le temps, mais faudrait parce que c'est passionnant ce que dit. C'est le moi est haïssable, c'est-à-dire le moi social est haïssable parce que ça fait chier tout le monde, les gens qui parlent sans arrêt de leurs problèmes. Mais le moi est haïssable ne veut pas dire que il y a pas un moi profond qui est digne d'être aimé. Et on peut dire que quand même le message du Christ, c'est que tout homme en tant qu'il est homme est entièrement reconnu dans son être et invité à dire « je ».
Donc c'est son « je » dans son individualité et dans ce qu'il a de précieux en tant qu'être.
Oui, alors évidemment, faisons la distinction. Le « je » qui est chiant, c'est les gens qui ramènent tout à eux-mêmes dans l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes.
Donc, c'est un faux «
je ». Voilà, ça c'est un faux « je » qui n'est pas du tout... c'est les gens, ils vous parlent sans arrêt d'eux-mêmes, mais il n'y a pas de lien.
C'est un « je » J-E-U.
Si vous voulez.
Un « je » social.
Voilà.
Et l'autre « je » J-E.
Et le vrai « je », c'est toute parole où quelqu'un parle en étant sincère, en étant honnête.
Et celui-là, il faut oser le laisser parler, ce
si vous, comment vous pouvez avoir rapport à quoi que ce soit? C'est intéressant que vous parliez du christianisme, parce que je pense qu'on connaît très mal le christianisme, parce qu'au fond, tout le message du christianisme, enfin, dans une grande part, disons, c'est au contraire que le « je », même le plus simple, même de la personne la plus humble, compte absolument. Et que, au fond, moi, je pense que le Christ est plutôt un maître qui ouvre chaque être humain à son vrai désir. Et là, donc, c'est vraiment permettre à chacun d'assumer son « je ». Si on prend la rencontre avec la Samaritaine, elle n'ose pas avoir un « je ». Elle se sent vraiment tellement nulle de sa vie. Et d'un seul coup, la rencontre avec le Christ lui permet de sentir qu'il y a un « je » en elle qui est digne de parole. Le Christ lui a rendu son « je ». Et donc, le « je », que je pense la clé du bonheur, c'est vraiment sentir que ne plus s'excuser d'être, oser être l'être que l'on est, ne plus se sentir coupable d'être, sentir, oui, qu'il y a quelque chose en nous qui mérite d'être entendu. Mais alors là, on en parle un peu d'un point de vue ultime, mais de point de vue tout bête. Moi, je me souviens quand j'étais élève, j'avais une prof de français, je m'ennuyais dans ses cours, elle expliquait des poèmes, je ne comprenais pas trop. Puis un jour, elle a dit, vous savez pourquoi je vous ai... on étudie un poème de Saint-Jean de Perse, c'est une chose tellement difficile. Elle a dit, je vais vous dire pourquoi j'aime ce poème et je vous le partage. Parce qu'elle voyait qu'on personne n'écoutait plus. Et elle a commencé à parler de la relation qu'elle avait avec ce poème, comment elle voyait plus les oiseaux de la même manière. Et je m'en souviens encore 35 ans après. Donc son jeu nous a touchés. Et c'est pareil, quand quelqu'un, à la télé ou à la radio, on entend quelqu'un qui parle en son nom, ça touche quelque chose d'universel. Donc ce jeu sincère est très profond, et de l'autre, et pour soi. Et donc le « je », ce « je-là », n'est pas du tout égocentrique, il ouvre la relation. Je ne peux pas rentrer dans une relation avec quelqu'un si je ne me montre pas. Et c'est vrai que c'est tellement, pour ma part, pénible, les gens qui parlent simplement toujours au nom d'une forme d'institution, de représentation, quand on a des problèmes et que vous allez rencontrer des personnels d'administration et qui... Et puis d'un seul coup, quelqu'un vous dit « je », vous êtes soulagé, quelqu'un vous comprend, quelqu'un vous reconnaît comme un être humain. Et donc, je crois, oui, que c'est absolument central. Évidemment, vous pourriez dire que je dis tout ça marqué par la réflexion sur l'expérience de la Shoah et de comment le mal, c'est que personne n'ose dire « je » et que tout le monde dit « ben c'est comme ça » et donc obéit aux ordres sans oser dire un « je ». Et que la résistance est toujours quelqu'un qui ose à un moment dire « ben je dis non » ou « je me lève pour ça » ou « j'ose parler à quelqu'un ». Donc au niveau le plus simple comme au niveau le plus profond, je pense que oui, le bonheur apparaît à partir du moment où on ose dire « je ». Alors, évidemment, c'est vrai que ça semble un peu surprenant, mes livres ont toujours un côté un peu surprenant pour ça, parce que quand je travaille, je vois que ce qu'on raconte souvent est erroné. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. On croit que dire « je » serait égocentrique, contraire à la pensée de l'Occident, et en fait, non, pas du tout. Socrate appelle à dire « je ». Parce que quand même, Socrate aussi, le Ménon, c'est un petit esclave, et il lui montre qu'il est capable de réfléchir complètement comme un philosophe, et il le guide pas à pas. Donc, du Ménon jusqu'au message du Christ, qui constitue comme deux grands fils conducteurs de l'histoire de l'Occident, la question du « je » a été importante, et on pourrait penser que qu'est-ce que cache aujourd'hui le fait qu'on ne peut plus dire « je », ou que c'est un « je » complètement superficiel et faux.
Fabrice Midal, vous avez prononcé il y a un instant ce mot de désir. Il est important ce mot de désir dans le livre. Alors là, je ne suis pas la chronologie de votre livre, mais vous dites « retrouve ton désir ». Vous insistez sur la nécessité de retrouver son désir. J'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce que même chose que le jeu, il y a un rapport complexe avec le mot de désir. Vous nous avez dit que vous avez suivi un enseignement bouddhiste. Beaucoup de gens s'intéressent au bouddhisme aujourd'hui, et quand on leur dit dans l'enseignement du bouddhisme, le désir est ce qu'il faut retirer pour éviter la souffrance.
Bah ouais. Oui, bah ça c'est parce que les gens ont un rapport tellement... c'est tout à fait faux, ça participe des grandes mécompréhensions. Le mot sanskrit c'est trishna, qui est traduit évidemment en français par désir, et donc du coup on a l'impression que le bouddhisme, je lis ça partout...
Le monde n'est que souffrance. l'enseignement du bouddhisme, oui, tel qu'il est présenté souvent, oui, en Occident. Le monde n'est que souffrance. Quelle est la cause de la souffrance? C'est le désir.
C'est complètement absurde. Franchement, c'est tellement absurde. Vous imaginez une tradition qui dirait à l'être humain, n'ayez plus de désir, donc soyez vraiment complètement neurasthénique.
C'est ce qu'on entend le plus souvent, hein, Fabrice Midal, vous le savez. Ça.
Je sais, donc ça prouve bien que les gens n'ont aucun rapport à la chose. Déjà, que les gens n'ont aucun rapport à une expérience humaine. Comment quelqu'un pourrait se lever le matin s'il n'avait pas un désir? Non, le mot, donc, c'est le mot Trishna qui a à voir avec la soif irrépressible, la volonté de saisie, la volonté
de posséder,
mais au sens de l'accaparement. Mm-hmm. Donc, se libérer de l'accaparement, oui, mais évidemment pas...
Parce que l'accaparement va entraîner de la souffrance.
Oui, mais ça, c'est la même chose qu'on a... c'est quelque chose... Oui, voilà, absolument, l'accaparement... Mais le désir, comme allant de vie, comme mouvement de vie, parce qu'en Occident, le désir ne veut pas du tout dire... C'est vraiment absurde, parce qu'en Occident, le désir, c'est la persévérance dans son être, pour reprendre ce que dit Spinoza. Donc la notion du désir, c'est l'allant de vie. Écoutez, moi, je connais le Dalai Lama, par exemple, il est tout sauf un être sans désir. Il est animé d'un allant de vie et d'une intensité ça n'aurait vraiment pas de sens. Mais c'est apprendre... ce qu'on pourrait dire en Occident, le désattachement. J'aime pas non plus le mot détachement, que je trouve... Mais le désattachement, c'est le désattachement. Mais moi, je dirais, de manière peut-être un peu provocatrice, que le vrai sens du bouddhisme, c'est de libérer le désir. Comme je pense que qu'on pourrait dire la même chose pour le Christ. On a aussi présenté longtemps le christianisme comme renoncer au désir et tout ça.
L'ascétisme, la dimension austère...
Et je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment... que le Christ est un maître du désir. Il rencontre les êtres humains et il libère l'allant de vie le plus profond.
Et de quel désir?
Alors, quel désir? Évidemment, si c'est le désir comme envie momentanée de quelque chose qui, je crois, va me satisfaire, évidemment, ce n'est pas ce désir-là qui va combler la vie. C'est-à-dire, si je crois que parce que je m'achetais telle chose ou mangeais telle chose, je vais tout de suite aller mieux... Je m'illusionne.
Et je vais être heureux. On revient sur la notion de bonheur. Regardez ce que nous disent les publicistes. Ayez telle voiture, achetez telle marque de vêtements,
ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion, mais ça, c'est pas un désir. Parce que c'est un désir qui n'est enraciné dans rien.
On crée le désir chez les gens.
On crée un faux désir. Parce que c'est pas le désir au sens profond, c'est vraiment l'appel à être. C'est qu'est-ce qui m'appelle à être. Au fond, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de dire qu'est-ce qui vous appelle à être. Et voilà, alors moi, j'ai le désir de vous parler. Et de faire que quelque chose que je dise soit dit. Et si je suis pas en rapport à mon désir, comment voulez-vous que je parle? Sans le désir, on n'a pas la force, on n'a pas le courage, on n'a pas l'allant, on est découragé. Donc comment on suscite le désir? J'ai un désir de vous parler, j'ai un désir d'écrire, j'ai un désir... Et même le désir que je peux avoir pour un être, c'est le désir d'être auprès de lui, parce que dans cette rencontre, j'adviens à moi-même. Mmh. Donc... Alors évidemment, c'est un peu paradoxal dans mon livre, parce qu'il y a un chapitre sur le désir et un chapitre où j'essaie de montrer l'importance d'assumer le manque. Que le vrai désir ne demande pas à être comblé. Ça, c'est un peu paradoxal. Là, je crois aussi que c'est une grande leçon des grandes spiritualités de l'humanité.
Oui, mais c'est très important, parce qu'on oscille souvent dans une existence humaine à acquérir, chercher, avoir, posséder, désirer, et puis se déposséder, se dépouiller...
Au fond, les deux peuvent être bien comme les deux peuvent être erronés, au fond. C'est-à-dire, il y a une dépossession qui peut être juste, une dépossession qui peut être mauvaise, il y a une possession qui peut être juste et une possession qui peut être mauvaise. Donc, parce que tout le monde dit...
Ça, c'est en toute chose.
Oui,
dans le désir, c'est ce que vous venez de nous dire.
Oui,
il y a un bon désir, un désir créatif.
Voilà, un désir créatif parce que je...
Aliène, quelque part.
Et tout le monde le sent. Je veux quelque chose, quand je l'ai, je ne me sens pas mieux. Mm. Et il y a des choses qui sont en chemin. Vous voyez, j'ai le désir de transmettre quelque chose. C'est le désir de transmettre qui m'habite. J'en aurai jamais fini avec lui. Donc je ne peux jamais le combler. Je peux juste l'éprouver. Ou le désir que j'ai pour mon conjoint, au fond, ce désir est infini. Il n'est jamais comblé complètement. Il est toujours « j'en ai jamais assez ». Et ça, c'est tout à fait... Vous voyez ? Donc ça, c'est tout à fait sain. Pareil, possession. Maintenant, partout, tout le monde explique « il ne faut pas posséder ». Et on oppose être et avoir. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est dommage parce qu'avoir une chose pour de bon. Et moi, je bois mon thé dans une tasse qui vient de ma grand-mère et que j'ai. Le fait que je l'ai pour de bon, j'en prends soin, je l'aime. Donc il y a un avoir qui est juste une possession malheureuse. et il y a un avoir véritable où je suis responsable de ce que j'ai, que j'en prends soin. Rilke dit des choses extrêmement belles sur le sens de l'avoir. Et donc, voilà,
Sri Aurobindo a une très belle phrase. Tu peux tout posséder, mais ne sois possédé par rien.
Voilà, c'est ça qui serait une bonne manière de dire les choses. Et si demain ma tasse se casse, tant pis. Mais j'ai un rapport avec elle et je suis gardien un peu des choses. Je dis ça qui peut sembler provocateur, mais c'est pour être soulageant. Parce qu'il y a plein de gens qui possèdent des choses et posséder peut être un enfermement, comme ça peut être une manière de prendre soin, de créer un espace. Et donc, je voudrais surtout déculpabiliser les gens. Je pense
ça, c'est votre grand souci, j'ai l'impression, oui. Fabrice Midal. Déculpabiliser.
Je pense que si je regarde un peu comme ça rétrospectivement, je pense que beaucoup de mes livres essayent de déculpabiliser. Beaucoup de gens m'ont dit en lisant mon livre sur le bonheur qu'ils se rendent compte qu'ils sont heureux sans l'avoir su avant de lire mon livre, qu'il y a plein de choses qui les rendent déjà heureux alors qu'ils se sentaient pas à la hauteur. Et c'est vrai, quand on parle du bonheur, beaucoup de gens ont un sentiment « Ah oui, je le suis pas, j'ai ça qui m'empêche d'être. » Et en lisant le livre, « Ah oui, en fait, je peux l'être. » Même si ma vie n'est pas aussi géniale, parfaite que...
Et vous pouvez le dire plus facilement parce que vous avez été vous-même beaucoup dans la culpabilité.
Ah, la culpabilité, je suis le roi de la culpabilité. Je pense que juif ashkénaze, vous êtes... je pense que c'est terrible.
Dans la culpabilité, pour
je
toujours.
Pense. Ah, je pense. Je pense... Bien sûr, ça se travaille. Mais moi, j'écris mes livres non pas comme quelqu'un qui a traversé tout... mais comme quelqu'un qui parle simplement de son chemin et de son expérience. Donc j'écris Foutez-vous la paix parce que j'ai beaucoup à apprendre à me foutre la paix. Mmh. Et j'écris ce que j'écris sur le bonheur parce que je suis le premier
à être en chemin.
Et la culpabilité, dont je parle beaucoup dans le livre...
Vous en parlez beaucoup de la culpabilité.
Du coup, j'essaye d'explorer. Ça me travaille beaucoup parce que c'est très frappant. La culpabilité, ce qui est très frappant, c'est pourquoi la personne qui est innocente se sent coupable alors que la personne qui est coupable se sent innocente. Ça, c'est une énigme qui m'interroge beaucoup. Pourquoi, quand quelqu'un bat et fait du mal à un enfant, l'enfant se sent coupable, a l'impression que c'est de sa faute, et l'homme a l'impression que c'est pas grave. Pourquoi, quand des parents divorcent, l'enfant a l'impression que c'est de sa faute alors qu'il y est absolument pour rien? Pourquoi, quand des femmes se font agresser, elles se demandent si c'est quand même pas de leur faute? Donc ce renversement... Me travaille beaucoup et j'essaye vraiment de creuser dans le livre cet étrange paradoxe comme si il y avait une victime innocente qui absorbait la culpabilité du coupable et que j'essaye d'interroger, de questionner.
Visage, l'expression de l'être.
Fabrice Midal, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de vos livres, hein, Foutez-vous la paix, la méthode Foutez-vous la paix, puis tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Dans ce dernier, vous dites « Rejoins la vie avec un pas de côté ». Donc ça m'a intrigué, parce qu'on sent bien en vous lisant que on n'est jamais heureux. Faut sortir de cette idée-là. On ne l'est jamais, on ne le sera jamais.
Une fois pour toutes,
de manière définitive. Par contre, dans notre existence, on a des moments de bonheur.
Ou surtout, on se rend compte rétrospectivement que... Je donne l'exemple, j'ai un de mes amis qui ne va pas bien, je l'emmène à l'hôpital, finalement tout se passe bien, mais on a vécu une journée très dure. Rétrospectivement, le soir, je me sentais heureux d'avoir fait ce que j'avais à faire. Donc, sur le moment, c'était très dur.
Vous étiez dans le stress.
Donc, le bonheur n'est pas que des moments bonheur. Mais on se rend compte que quand on a fait quelque chose qui est juste, même s'il y a eu des moments difficiles, rétrospectivement, on dit « Ah oui, je suis heureux. » Parce que j'ai fait quelque chose qui était juste. J'ai fait quelque chose qui était bien. Je suis en accord avec moi-même. Il y avait de l'amour dans ce que je faisais. Donc ça, c'est vraiment central. Parce qu'aujourd'hui, on a presque, quand on parle du bonheur au mieux, on pense juste aux petits moments. Très bien. C'est très important. Je donne plein de choses...
Oui,
dans le livre,
Philippe Delerme en parle très très bien, ces petits instants de bonheur.
C'est pas ça qui suffit dans une vie. Ce qui me semble important, c'est aussi sentir que même des choses difficiles. Je reviens d'aller voir une exposition de peinture qui m'a rendu très heureux. Mais quand je suis arrivé, j'étais submergé par l'intensité des œuvres d'art. Et je me dis, je ne vais pas y arriver à voir l'exposition. Donc, sur le moment, je n'étais pas heureux. Mais je suis heureux du mouvement général et de comment ça va résonner dans ma vie. Mais où vous aimez faire du tennis, vous aimez jouer au tennis, vous n'êtes pas heureux juste le moment où vous gagnez. Si c'était ça le bonheur, 2 secondes plus tard, vous êtes malheureux parce que vous allez remettre en jeu au prochain match votre titre. mais vous êtes heureux même quand il fait froid, que vous mettez vos chaussures et vous allez courir pour vous entraîner. Sur le moment, vous n'êtes pas content, mais après vous êtes content parce que vous créez quelque chose. Il y a ce mouvement.
C'est un mouvement.
Oui, et donc je crois, ça c'est... Ben, je vous ai coupé.
Oui, parce que je veux revenir à cette notion de pas de côté.
Oui.
Moi, ça m'intriguait, ça rejoint la vie avec un pas de côté, alors qu'on dit énormément aujourd'hui, rejoins la vie, c'est-à-dire sois totalement présent dans ce que tu fais, savoure cet instant-là. Et là, tu pourras être heureux. Et vous, vous dites, rejoins la vie avec un pas de côté. J'ai pas très
Alors, un pas de côté, parce que quand on veut affronter un problème de face, c'est souvent la meilleure manière de ne pas y arriver. Je dois passer mes examens, je dois parler à quelqu'un, j'ai telle angoisse. Plus je veux résoudre le problème, moins je le résous. Et donc là, je me base sur beaucoup d'études thérapeutiques et de l'école de Palo Alto, de comprendre que les problèmes méritent d'être vus avec une plus large vue, une vue d'ensemble, une vue, disons, systémique. Et que, d'un seul coup, c'est ça qui permet de résoudre le problème. Par exemple, quand des gens ont un problème de couple et qu'ils vont voir un thérapeute, le thérapeute ne va pas voir qui a raison des deux, mais va essayer de comprendre le système de leur relation et de leur communication pour essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas changer quelque chose dans la relation, dans la communication, pour permettre à chacun de changer et d'aller mieux. Donc, faire un pas de côté, c'est ça l'idée. Vous savez, pour soigner l'alcoolisme, la grande idée des alcooliques anonymes, c'est de faire un pas de côté, c'est-à-dire non pas je vais guérir de l'alcoolisme, mais je suis alcoolique et même si je suis sobre, je serai un alcoolique qui reste sobre, mais je suis alcoolique quoi qu'il arrive. Donc, c'est un changement, vous voyez, c'est vraiment un pas de côté. Je renverse la logique dans laquelle je suis. C'est tout blanc, tout noir. C'est ceci ou cela qui me met la pression et qui fait que je n'y arrive pas. Et donc, la grande force des alcooliques anonymes, qui repose vraiment sur que l'école de Palo Alto a beaucoup étudié, parce que ça repose sur ce paradoxe. C'est pareil, foutez-vous la paix pour dormir, ça semble complètement ridicule puisque je veux dormir, mais c'est ça qui va me permettre de réussir à dormir parce que je déplace la manière dont j'ai de prendre le problème. Et ma conviction, c'est que c'est souvent en se déplaçant, en regardant les choses sous un autre angle, qu'on peut résoudre un problème.
Et ça, on peut le faire seul, ou on a besoin de quelqu'un.
Moi, je pense on peut le faire seul. Et après, ça peut être bien. Souvent, quand on parle avec un ami, parce que quand on parle avec un ami, on a un problème de boulot et tout, on lui dit, voilà, et il vous dit quelque chose. Vous auriez pu y penser vous-même, mais juste que c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, vous voyez les choses autrement, et d'un seul coup, vous êtes plus léger. Ben, c'est ça, il vous a appris à faire un pas de côté. Parce qu'on voyait que le truc blanc-noir, je le dis ou je le dis pas. Très souvent, un bel exemple de pas de côté. Un homme se noie, un homme se jette dans un fleuve, je ne sais plus dans quelle ville c'était, pour se noyer. Le policier arrive et qu'est-ce qu'il peut lui dire ? Sortez de l'eau, mais le type veut mourir. Donc là, il est complètement coincé et il a l'idée absolument géniale de lui dire « Sortez de là où je tire ». Et ça coupe, vous voyez, ça fait un pas de côté, le type sort de l'eau et il l'a sauvé. Et donc c'est souvent... Voilà, quelque chose qui sort de la logique dans laquelle on était enfermé. On est souvent enfermé dans une logique. Si je dis ça, ça va pas. Si je dis rien, ça va pas. On est tous pris dans des trucs comme ça. Donc, j'essaye d'analyser dans le livre comment se met en place tous ces mécanismes. Au fond, on est prisonnier d'une double contrainte, souvent. Vous voyez, c'est aussi une autre fameuse histoire juive. Une mère offre à son fils deux cravates, une bleue et une rose. Le lendemain matin, il arrive avec sa cravate bleue, il dit « Tu n'aimes pas le cadeau que je t'ai offert, tu n'aimes pas la cravate rose que je t'ai offert. » Donc ça, c'est la double contrainte. On vous dit une chose et son contraire. Mais notre société est beaucoup là-dessus. Là, on explique au personnel soignant qu'il faut qu'il soit plus à l'écoute des patients, qu'il y a une charte pour les patients, et on leur demande de faire plus de résultats, et donc on leur demande deux choses complètement contradictoires. Ça rend fou. Encore une fois, les gens font un burn-out dans le monde médical, non pas parce qu'ils ne gèrent pas bien leur stress, mais parce qu'ils sont victimes d'une double injonction. Donc repérer cette double injonction, c'est libérateur. Vous dites, ah non, je ne suis pas coupable, c'est pas moi qui suis un mauvais médecin, c'est juste qu'on me demande deux choses absolument impossibles et que je n'arrive pas à répondre à la demande qui m'est faite.
Et donc là, je fais un pas de côté.
Je fais un pas de côté, j'essaie de voir le mécanisme d'enfermement pour me déculpabiliser.
Thank you. Fabrice Midal, je me demande si parfois vous n'êtes pas volontairement provocant vis-à-vis de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le développement personnel. Par exemple, dans votre livre, « Tout ce qui nous empêche d'être heureux, est-ce qu'il faut savoir pour l'être ?» Vous dites « Ne ralentis pas ».
Ah oui, j'aime même
ne ralentis pas. Alors qu'on nous dit sans arrêt,
c'est vrai.
Éloge de la lenteur, aujourd'hui on va beaucoup trop vite. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche là ?
Alors,
il veut nous provoquer.
Alors, je vais expliquer ce que je dis. Vous allez voir, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est du bon sens ? On nous dit tout le temps ralentir. Mais d'abord, moi quand je regarde ma propre vie, il y a plein de moments, je vais trop vite. Mais il y a plein de moments, j'adore courir. J'adore courir, faire plein de choses, être dynamique. Imaginons que quelqu'un soit malade et qu'il faut qu'un médecin vienne, j'espère qu'il va venir très vite. Donc il y a des moments où il faut aller vite et il y a des moments où il faut aller lentement. Donc moi la question c'est pas ralentir pour ralentir, que je trouve un peu abstrait. Je trouve que la question centrale c'est la question de la profondeur du lien qu'on a aux choses qu'on a. Et il y a des moments où vous pouvez aller très vite et avoir un lien profond avec les choses. Vous pouvez être très lent et être complètement absent. Donc les gens ils sont très lents et il se passe rien. Donc il faut trouver le bon rythme, mais la question centrale, c'est la question plutôt de la résonance. Est-ce que je rentre en résonance avec l'autre ? Est-ce que j'en serai en résonance avec ce que je fais ? Moi, il m'arrive des fois de répondre à mes mails et d'être rapide, mais ça ne m'empêche pas de sentir très profondément chaque personne. Et il y a des moments où je vais un peu lentement, mais en fait, je ne suis pas vraiment là et pas vraiment présent. La question de la présence n'est pas liée uniquement à la question de ralentir. Des fois, c'est très bien de ralentir. Moi qui pratique la méditation et qui est vraiment quelque chose de central, apprendre à des moments à ralentir, c'est très bien. Mais apprendre à des moments à accélérer, c'est aussi très important. C'est-à-dire, évidemment, c'est bien d'être vif, d'être rapide. Il m'arrive de devoir faire à manger, de ne pas avoir beaucoup de temps et d'apprendre à être vif, rapide, c'est bien. Puis on sent vivant, on sent la lente vie. Donc j'essaye de montrer que l'important, c'est pas juste de ralentir. Donc voilà, est-ce que je suis provocateur ou est-ce que ce que je dis est plein de bon sens, même si ça va à l'encontre de choses qui ont l'air d'aller de soi, mais qui ne vont pas du tout de soi quand on les creuse.
Quand on vous écoute, on se rend compte que tout est beaucoup plus complexe qu'on voudrait bien le faire, moins simpliste. Il n'y a pas juste une voie.
Oui.
Et que dans chaque pratique, on va dire, que je mets entre guillemets finalement, il y a doubles aspects.
Oui, puis il faut aussi viser droit dans le mille. Et droit dans le mille, c'est pas dire il faut ralentir. Droit dans le mille, c'est dire il faut que j'entre davantage en lien, en présence, en attention avec ce qui se passe.
Et donc là, avec moi-même, avec les autres
bien
et
sûr.
Avec ceux qui m'entourent.
Bien sûr.
C'est ça, quand vous dites rentrer en résonance.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, au fond, je finis le livre comme ça parce que j'avais fait un cours. Beaucoup de ma vie maintenant est consacrée à faire des cours en ligne. Donc je fais des cours qui durent, peut-être je peux en dire deux mots, je fais des cours sur des thèmes, et puis ça dure une heure en direct, six fois sur 15 jours, donc voilà, c'est le soir de 9h à 10h, après les gens peuvent voir en replay, et c'est un peu, beaucoup de mon travail consiste à faire ces cours, à inventer ces cours avec plein d'exercices pratiques, et donc j'avais, avant de faire le livre, testé ce que je disais dans un cours, et j'avais demandé aux gens, et vous, quand avez-vous été heureux ? Et alors c'est vraiment passionnant, si je peux en lire quelques-uns, une promenade en forêt sous un beau soleil d'automne, et même si je m'étais fait mal aux pieds. Et c'est magnifique, parce qu'on voit bien que donc, la personne n'est pas heureuse uniquement dans un état de bien-être comme on le raconte tout le temps. Elle dit des choses toutes simples, qu'on a tous fait l'expérience, mais au contraire, parce qu'elle est entrée en résonance. Que quelque chose, vous voyez, c'est pas parce qu'elle a ralenti, elle pouvait le faire, ça me promenait vite ou lentement, c'est pas ça qui compte. Balade dans les bois, je suis tombé nez à nez avec un chevreuil, trop occupé à manger pour remarquer ma présence. Lorsque j'ai entendu le silence du matin à 5 heures, puis les premiers chants d'oiseaux. Je venais de rentrer d'un séjour à l'hôpital et j'ai pris le temps de caresser mes chats. Vous voyez, c'est toujours des moments où on sent quelque chose d'un lien profond, où on est vraiment en lien et qui n'a aucun rapport avec vite ou lent. Et je trouve, en répétition au théâtre, quand après m'être planté dans mon texte, je me suis foutu la paix, j'ai recommencé comme à zéro et que c'est reparti tout seul et que ça sonnait juste. Donc on sent aussi en plus que j'étais très étonné, parce qu'on voit bien que quand on demande aux gens, ils savent déjà très bien que ce que disent les gens les plus ordinaires n'a rien à voir avec le discours habituel. Ils ne disent pas qu'il faut ralentir, et ils ne disent pas qu'il faut être dans un état de béatitude. Mm-hmm. Ils parlent qu'ils rencontrent l'échec, et que quelque chose de plus grand qu'eux vient.
Comme dans les petites choses, j'aime bien ce passage où vous dites « ne méprise pas la routine ».
Oui.
Entre dans ces petites choses de la vie. Quoi.
Oui,
ne cherche pas l'extraordinaire, n'attends pas l'extraordinaire pour être heureux.
Oui, parce que c'est une qualité de présence qui rend heureux. Et cette qualité de présence, on peut l'avoir. Il m'arrive de parler à des gens qui s'occupent d'accompagner des mourants et de leur donner quelques éclairages sur la méditation. Et c'est pas une expérience facile ou.
Mais là, c'est presque quelque chose d'extraordinaire.
Oui, mais en même temps, ce qui monte, c'est oui et non. En réalité, c'est très ordinaire. Quand les gens parlent, au fond, c'est pas du tout l'expérience grandiose qu'on imagine. C'est juste laver les choses, être là auprès. Et au fond, ce qui marche dans cette attitude, c'est d'être prêt. C'est la qualité de présence à presque rien qui transforme tout. Et c'est cette qualité de présence à presque rien qui transforme tout. Mais pour la débloquer, il ne s'agit pas de faire comme on dit aujourd'hui, voyez, soyez présent, soyez juste dans le moment présent, ça ne marche pas du tout. Pour débloquer ça, il faut libérer tous les verrous dont on a parlé. Oser dire « je », se libérer, de ralentir, il y a des verrous à libérer.
Mais ne pas avoir peur de la routine, au sens, ne pas avoir peur de l'ennui. Et on est dans une société de la distraction,
oui.
Où il ne faut pas s'ennuyer.
Ah, c'est très important de s'ennuyer. Ah, c'est très important. On peut pas être heureux si on s'ennuie pas. On peut pas être heureux si on s'ennuie pas au sens où, à des moments, pas tout le temps, mais au sens où il faut changer de perspective. Quand on veut pas s'ennuyer, on fuit quelque chose et donc on n'a pas notre temps propre.
On se fuit soi-même.
On se fuit soi-même, on fuit quelque chose de la vie. Et la routine, alors la routine a mauvaise presse, mais par exemple, toute la tradition du monachisme repose sur, au contraire, développer des routines qui permettent de développer la présence. Donc pour nous aujourd'hui, on a l'impression que la routine, c'est contre la présence, mais il faudrait voir qu'il y a des routines qui sont contre la présence, mais beaucoup de routines permettent au contraire d'apprendre à être présent.
Pour terminer, Fabrice Midal, il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on pourra aborder, que vous abordez dans votre livre, mais vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ?
L'amour. D'abord, mon livre finit sur l'amour, et je crois que
énorme, l'amour.
Oui, mais je pense qu'on ne peut pas finir l'émission et parler du bonheur sans finir sur le fait d'aimer, le fait de se sentir aimé, avec cette remarque fondamentale que il est important que les choses fonctionnent dans toutes ces dimensions, se sentir aimé, sentir qu'on aime, sentir que les deux sont aussi importantes. J'aime beaucoup le théologien Joseph Pieper qui disait très justement que ceux qui croient qu'il faut juste aimer et ne pas être aimé, c'est une faute très importante. On croit que le christianisme veut dire ça, mais c'est se prendre pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut aimer sans attendre en retour, mais que nous, être humain, on a besoin d'être aimé, se sentir aimé. Et je crois que, au fond, quand même, une des énigmes de ma vie, c'est comment donner droit à ce bonheur d'aimer et d'être aimé qui me semble la clé du vrai bonheur.
Merci beaucoup, Fabrice Midal, de nous avoir accueillis ici dans votre bureau. Je renvoie à vos livres les plus récents, La méthode Foutez-vous la paix, que vous publiez, puis également ce livre, Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, que vous avez publié également aux éditions Flammarion. Puis, merci de nous inviter à tous ces petits moments de réflexion, à tous ces petits pas de côté.
Merci, c'est un grand bonheur d'être avec vous à RCF.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.